Alors, nous sommes avec Delphine Dénéréaz, à quelques mètres des salles d'exposition qui lui sont consacrées. Et nous sommes le 10 novembre en pleine installation. Delphine, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Avant de rentrer dans le sujet de l'exposition, j'aimerais qu'on rentre davantage dans la matière, parce que là où nous en sommes, la quasi-totalité des installations de l'exposition sont le résultat de semaines entières que tu as passé à tisser ou à broder dans les espaces de la collection ou dans ton atelier à 1 heure d'Avignon à peu près. J'aimerais que tu nous racontes pourquoi est-ce que ce médium a une importance prépondérante dans ton travail.
Alors, moi je fais du tissage depuis maintenant 6 ans. J'ai cette pratique de la lirette, qui est un moyen de recycler les vieux linges de la maison. Donc, c'est une technique qui daterait du Moyen Âge. Moi, je pense que ça existait avant, c'est juste qu'il n'y a absolument aucune archive dessus. Mais étant donné que dans toutes les communautés de tisserands, on s'applique à recycler, en fait, je vois pas pourquoi ça n'existait pas avant, étant donné que le tissage est une technique plus que millénaire. Moi, je suis sensible à ça parce que il y a cette notion d'histoire et d'universalité avec le tissage, en fait, qu'on retrouve partout dans le monde et qui a un langage commun, une technique commune, qui raconte l'histoire de l'humanité. Donc, il y a d'abord ça, et puis après, le fait de travailler avec des matériaux de récupération, ça porte aussi une charge émotionnelle et d'histoire, de petite histoire, là, pour le coup, où il y a des traces d'usage, il y a des témoignages de la vie précédente du textile. Et c'est ça qui m'habite avant tout dans cette manière de travailler.
D'ailleurs, tu as fait des études qui étaient au départ des études, qu'on dirait, d'art appliqué, de design textile,
C'est
et
ça.
qui n'étaient pas forcément une école traditionnelle d'art.
Alors, moi j'étais à la Cambre à Bruxelles, c'est une école nationale supérieure qui est un petit peu l'équivalent des arts déco en fait en Belgique. Et c'est une école qui regroupe 17 ateliers, donc répartis entre des pratiques plus beaux-arts comme la peinture, la sculpture, le dessin et d'autres plus arts appliqués et où il y avait notamment l'atelier de design textile. Et l'intérêt c'était justement que ça naviguait entre les deux domaines. On avait à la fois les cours plus beaux-arts, type dessin d'observation, histoire de l'art et tout ça. Et après, des choses beaucoup plus techniques avec les techniques de tissage, de tricot, de sérigraphie, etc., qui sont liées à la technique à la pratique du design textile, mais qui nous amenait plutôt à devenir designer, effectivement.
Et d'ailleurs, il me semble que ça raconte beaucoup de choses quant à ta manière d'être dans le monde de l'art et dans la société, et que ça raconte aussi un moment important qu'on est en train de vivre, qui a été vécu plusieurs fois dans l'histoire de l'art, mais il me semble que là, les barrières tombent de manière beaucoup plus évidente, où les artistes naviguent entre différents modes avec beaucoup d'aisance et n'ont pas peur, et je sais ce que je trouve très stimulant, de passer d'un, si tant est que les frontières existent, mais d'un monde de la mode, un monde de l'art plus établi, à des pratiques issues des réseaux sociaux, et à jouer aussi dans le même temps avec des symboles et une imagerie qui provient de tous ces mondes-là et qui se mélangent. Je crois que c'est très caractéristique de ce que tu fais, si tu peux en dire un peu plus.
C'est vrai que moi, je m'inscris un petit peu à la croisée de plusieurs pratiques, en fait, parce que j'ai un acquis, un bagage artisanal, enfin, d'un savoir-faire artisanal, mais aussi voilà, plus de design, mais je mêle ça aussi avec l'histoire du textile, quelque chose qui va aller piocher dans l'ornementation, le décoratif, le fait que pendant longtemps le textile était considéré comme un art mineur. Et aujourd'hui, ce qui est beau, c'est qu'on assiste à un décloisonnement de tout ça. C'est vrai qu'en France, on est très attaché aux étiquettes entre l'artiste, le designer et tout ça. Et c'est vrai que moi, ça me plaît de naviguer dans tout ça avec le bagage que j'ai, les acquis que j'ai et les rencontres après qui font aussi qu'on va un peu plus s'orienter d'un côté ou de l'autre. Et puis évidemment dans mon travail il y a ce grand mélange entre cette technique traditionnelle où je fais tout à la main qui est très ancrée et à la fois des références à la culture internet, à nos moyens de communication, la surabondance d'images. En fait, ça me plaît aussi que mon travail soit très ancré dans sa génération et par les symboles que je vais réemployer en fait.
Et d'ailleurs, ça t'amène à travailler, mais avec le même statement, j'allais dire, c'est-à-dire que tu ne varies jamais dans ton positionnement, ça t'amène à travailler pour ou la Villa Noailles ou la collection Lambert, qui sont des lieux qu'on dit établis, et à travailler aussi pour des autres instances établies, mais qui peuvent être des marques comme Nike ou
Ouais.
Gucci, je crois. Et le passage de l'un à l'autre se fait avec le, j'allais dire, avec le même geste.
Oui, c'est ça, c'est vrai que moi je vais pas m'adapter. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme. Je vais m'adapter à l'espace. Je vais m'adapter à faire quelque chose qui fait sens. Mais c'est vrai qu'après, ma technique, elle varie pas et ma manière de travailler non plus. Je vais aller piocher. Je vais me nourrir de l'histoire de la marque, par exemple, avec laquelle je vais travailler, ou du lieu, de l'espace qui m'est consacré. Mais après, voilà, ma technique reste absolument la même. Après, parfois, les matériaux peuvent un petit peu diverger et s'adaptent aussi au projet, mais c'est vrai que je pense que c'est aussi pour ça qu'on vient me chercher, c'est pour ce que je fais et pas pour que je change en fait ma manière de travailler.
Oui, et puis je trouve qu'il y a une dimension pour le coup à plein d'égards qui est assez politique dans ce travail. D'abord dans cette idée, moi, qui me plaît particulièrement de mélanger le vernaculaire avec des références de l'histoire de l'art, de l'histoire ou de la société contemporaine. Mais aussi, je trouve, dans l'utilisation même de la broderie ou du tissage. Et la première fois qu'on avait découvert ton travail à la collection Lambert, moi, je pensais, peut-être à tort, mais aux années 60 et à cette bande de femmes qui essayaient d'exister dans l'art à un moment où c'était encore plus compliqué qu'aujourd'hui, et qu'on a appelé les brodeuses, enfin, à Louise Bourgeois, à Annette Messager, à Fanny Violet, et qui, justement, utilisaient un geste qui venait d'un espace domestique auquel on essayait de les cantonner, et qui se servait vraiment à dessein de ce geste-là pour rentrer dans le champ de l'art et dans le champ des grandes institutions. Et il me semble qu'il y aurait quelque chose de ça dans ton travail, avec en plus la problématique de la réutilisation et du réemploi qui nous connecte à la société d'aujourd'hui.
C'est vrai que c'est des femmes qui ont un petit peu fait le passage pour nous, en fait, maintenant, pour les artistes femmes qui utilisent le textile. En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de, soit des femmes, soit des minorités de genre, en fait, qui s'expriment par les arts dits mineurs, comme la céramique ou le textile, ou même le vitrail, enfin, tout ce qu'on appelle les arts décoratifs. Et c'est vrai que moi, c'était pas très conscient au début, quand je me suis dit, bon, ben voilà, je suis artiste, et puis en fait, mon savoir-faire, c'est le tissage, mon outil, c'est le métier à tisser. Bon, ben, en fait, pour moi, c'est tombé sous le sens. Et après, en fait, en prenant le temps d'observer ce qui se faisait, de me replonger aussi dans l'histoire de l'art et de l'art du textile, en fait, on se rend compte que ça a toujours été grâce à des femmes qu'aujourd'hui, en fait, moi, je trouve ma place dans une institution comme celle de la collection Lambert et dans des galeries, même si c'est encore, on sent qu'il y a encore parfois des petites timidités vers le textile, en tout cas à l'acheter. Pour l'exposer, je pense que c'est plus un problème parce que ça fait quand même maintenant 50 ans qu'on en voit, mais voilà, il y a encore du chemin à faire, mais c'est beau. Enfin, moi, je suis contente d'en arriver là, et c'est vrai que voilà, comme c'était pas du tout conscient au départ, maintenant ça l'est et ça devient un vrai acte aussi. Et j'assume pleinement aussi de travailler par exemple les fleurs, parce que c'est vrai que jusqu'alors on avait un peu tendance à considérer ça comme gnangnang, et en fait maintenant je l'assume pleinement, en fait, d'aimer les choses dites féminines et de les revendiquer et de les faire très très grande et en fait les asséner, quoi. C'est vraiment une réappropriation de tout ça, de la même façon qu'on se réapproprie des insultes en fait, oui, vous m'avez cantonné à ça, en fait je vais le faire mais encore plus grand.
Oui, on renverse la charge de ce qui était prévu. Et par ailleurs, ça transparaît de manière à la fois fine et intense à tous les endroits du projet. Là, en l'occurrence, le projet s'appelle Delphinland, tu vas en dire deux mots, mais c'est un projet qui justement traite de la sursaturation, de l'envahissement, et qui me semble vient planter vraiment les choses de manière très puissante, et il sera impossible de passer à côté du textile après ce projet-là, j'espère. Et raconte-moi un peu la genèse de ce projet, j'en dis pas trop pour pas trahir les propos.
Alors Delphinland, c'est vrai que ça peut paraître de prime abord assez léger et un peu rigolo et un tout petit peu mégalo, puisque c'est avant tout un jeu de mots avec mon prénom. Mais j'avais envie de me créer un monde. Enfin, c'est vrai qu'avec suite à ton invitation à occuper les espaces ici, je me suis dit, ok, j'ai cet espace-là, qu'est-ce que j'en fais? J'avais déjà travaillé sur des éléments d'architecture envahis, laissés à l'abandon, et je me suis dit, ok, je vais faire ça à fond. Surtout que la configuration et la géographie de l'espace vraiment m'a inspiré ça en premier lieu, la lumière, ce côté un peu capsule temporelle, science-fiction, enfin qui font partie de mes références. Et voilà, donc l'envie très vite de faire comme une cité abandonnée, mais qu'on qui a vécu une époque prospère et flamboyante, avoir un propos de base léger, parce que c'est une ville qui célèbre l'amour et les dauphins, donc de prime abord, c'est un peu, y a un côté un peu ridicule là-dedans et qui est très assumé et qui est poussé même à son paroxysme avec des dauphins partout, des cœurs, du rose, des paillettes, enfin vraiment quelque chose de très très assumé là-dedans, dans ce côté kitsch, et qu'on retrouve à Las Vegas ou à Disneyland, enfin dans des villes un petit peu factices comme ça, mais qui sont pourtant très fascinante et qui suscite quand même beaucoup d'intérêt et de visites. Et après avec cette plante, pareil, la fleur, c'est aussi on en parlait tout à l'heure, quelque chose qui peut être, quand on a quelque chose de mignon, de gentil, de doux, de féminin, et donc en fait là cette fleur, elle se renverse contre cette ville. Donc c'était une fleur qui était vénérée, qui s'appelle le delphinium, donc encore une fois on est dans cette espèce de délire un peu autour de mon prénom et de ce que j'aime, en fait c'est finalement ce qui me définit. Et donc c'est une fleur qui devient envahissante, qui est toxique et qu'on n'a pas réussi à stopper, en fait. Et c'est un peu toujours ce truc de la nature qui reprend ses droits, surtout aujourd'hui où il y a un vrai questionnement sur l'avenir de la planète, entre tout ce qu'on construit, l'artificialisation, en fait, à quel moment, enfin, on sait quelque part que l'humanité elle s'arrêtera, mais que la planète elle continuera à vivre. Et donc il y a un peu ce truc de la nature reprend ses droits, et que surtout l'ambivalence entre une fleur qui normalement est décorative, sage, et qui là devient complètement oppressante et pousse à fuir, mais qui reste malgré tout belle. Et moi je suis un peu fascinée par ces trucs où le danger, en fait. Je sais que par exemple à La Réunion avec les volcans, les gens ils vivent quand même à côté des volcans, alors qu'à tout moment ça peut jaillir, et ça a été dans l'histoire, on l'a vu, des coulées de lave. Enfin, moi j'avais un peu aussi envie de parler de ça, en fait, qu'on s'approche toujours du danger de notre propre mort par ce qu'on crée. Donc voilà.
On est dans l'amour et la violence.
L'amour et la violence, ouais.
Et pour reprendre Sébastien Tellier, mais c'est vrai qu'il y a une esthétique de la ruine qui est très très belle, qui est très contemporaine et qui est très ancrée aussi dans une imagerie de l'histoire de l'art, qu'on perçoit au fur et à mesure, je me projette puisque l'exposition n'est pas encore montée, mais à force de venir dans les espaces, qu'on perçoit au fur et à mesure que l'installation se monte. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que je suis assez proche aussi de l'univers de la science-fiction, et il semblerait que tu viens en fait acter une prophétie qui depuis presque 100 ans est égrenée dans des ouvrages, dans des films. Mmh. En réfléchissant au projet, je me rappelais les propos d'Adolf Loos, l'architecte viennois moderniste, retranscrit par Al Foster, qui parle du crime de l'ornementation à propos de l'art nouveau, et qui va essayer de le purifier à force de façades très austères et très modernes. Et puis après, on pourrait passer par la petite boutique des horreurs où on nous prévient qu'une plante cannibale va dévorer tout le monde, et après on pourrait aller sur J.J. Ballard avec ses plantes sonores soniques envahissantes. Et au fur et à mesure de l'histoire, en fait, la prophétie avance, et là ça y est,
ouais.
La ville a été vidée de ses habitants et la plante a pris le dessus, et on est face aux vestiges et face à nous-mêmes finalement.
Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a laissé dans ces espaces vidés, abandonnés, et en même temps on revient les voir ici. Là, dans le cadre de l'exposition, c'est un peu comme c'est comme aller voir Tchernobyl, les ruines de Tchernobyl. On sait qu'il s'est passé un truc abominable, et c'est encore dangereux, mais on peut pas s'empêcher quand même de venir voir. Et moi, c'est ça qui me plaît aussi dans le fait de travailler un sujet tel que ça, en fait, et pas être juste dans il s'est passé une catastrophe, c'est triste, et puis voilà.
Non, oui, ça joue avec la notion de plaisir beaucoup malgré tout.
Ouais.
Où il y a cette espèce de... Ça pourrait être un parc d'attractions reconstitué, du cauchemar climatisé, d'une ville factice envahie par les plantes, qu'on viendrait voir comme des touristes, Béa. Et malgré tout, ce qui est vraiment intéressant dans l'exposition, c'est qu'il y a une espèce de jouissance à venir comme ça parcourir ton monde, en fait, puisqu'on comprend que c'est le tien, et à se projeter dans des références qu'on comprend. Parce que tu disais que c'était peut-être kitsch de passer par des cœurs, des dauphins, mais en fait, en écoutant, je me rends compte que on communique entre nous davantage avec des images, des émoticônes de cœurs et de dauphins qu'avec des mots. Donc je crois que c'est pas si kitsch que ça, mais que ça raconte énormément, en fait, du langage qui est le nôtre à travers les écrans tactiles qu'on utilise tous les jours.
Bien sûr. Et puis c'est des symboles, c'est des motifs, et quand on regarde l'histoire du textile, par exemple les tapis, tous les motifs, ils racontent la vie quotidienne. Donc en fait, c'est juste une poursuite de ça, mais d'une manière contemporaine et complètement complètement émancipée des codes très traditionnels du tapis où il y a des ordres et tout ça, mais il y a aussi un peu ce truc-là que la communication elle passe par une image et en fait il y a tout un vecteur d'émotion qui se passe là-dedans et que c'est aussi des images qui peuvent être ambivalentes à des moments, enfin qui peuvent être soumises à plusieurs interprétations et c'est ça qui me plaît aussi dans l'emoji en fait et qu'aujourd'hui encore une fois on retrouve ce truc d'universalité dans ce moyen de communication. On voit avec Instagram, on reçoit des cœurs de partout dans le monde en fait maintenant. Enfin, il y a un truc que je trouve assez fou là-dedans en fait et qui est concentré dans une forme toute simple, mais ouais, qui raconte énormément.
Et c'est d'autant plus intéressant qu'on est dans un lieu, la collection Lambert, où il y a des artistes qui, selon les générations, ont travaillé sur cette idée de se fondre dans l'imagerie d'une société, dans sa manière de communiquer, pour essayer justement de développer un propos plus large, et notamment des femmes. Enfin, quand je pense à Barbara Kroger ou à Jenny Holzer, qui sont vraiment venues dans le monde de la communication pour en soutirer la force et en soutirer aussi cette espèce de langage commun et de le détourner pour nous amener vers des problématiques qui nous concernaient davantage et qui je pense nous maintenaient en état d'alerte. Donc ta présence est encore plus réussie j'imagine dans le sous-sol du musée. Et il y a quelque chose qui m'intéresserait du coup de peut-être d'approfondir dans le cadre peut-être de notre projet et on pourra finir sur ça, mais au fur et à mesure de tes présences à la collection Lambert, parce que ça fait plusieurs fois que tu viens et là on est sur une acmé puisqu'on a une vraie grande exposition solo, à force de à chaque fois de te remettre en question sur tes manières d'installer, d'assumer le décor, de sortir d'architecture comme les chapelles que tu avais éprouvées pour te mettre davantage sur les murs, ce qui est plus risqué, je trouve qu'il y a une relation à la peinture dans son aspect classique qui devient de plus en plus présente et que le public ressentira peut-être derrière encore une fois les décors, les installations, ce que tu sais bien faire. Et j'ai l'impression que c'est très assumé maintenant, cette idée de jouer avec un cadre, avec une peinture et avec ce qui s'est passé dans l'histoire de l'art.
Ben c'est vrai que au plus j'avance dans ma carrière, qui est encore courte, mais chaque année il y a son lot de surprises et d'événements et de projets qui me font grandir, qui sont des étapes et des objectifs. Et j'assume aussi de plus en plus être artiste. ça paraît tout bête, hein, mais il fallait assumer aussi être artiste avec du textile et que c'est comme si quelque part je savais pas peindre. Alors du coup je prends des couleurs qui sont toutes faites. Et depuis que j'ai développé aussi ce projet de tissage sur grillage, je retrouve aussi un geste qui se rapproche plus du dessin, qui est plus compliqué quand on tisse sur métier à tisser, où il faut vraiment tout décomposer comme des pixels presque. Donc du coup, on perd un peu la spontanéité du trait. Et c'est vrai que c'est apparu un peu, encore une fois, un peu inconscient, parce qu'à la base, si j'ai décidé de travailler sur le grillage, c'était plus pour m'émanciper de mon outil, proposer des choses plus grandes, un peu plus en volume justement dans l'espace, parce que ça m'apportait d'autres caractéristiques. Et en fait, j'ai découvert en fait que je pouvais redessiner en fait à travers le fil sur le grillage et retrouver en fait et assumer en fait que je dessine à la base. En fait, depuis enfant, je dessine, mais jusqu'à présent, le dessin était juste un outil en fait. Et c'était quelque chose presque que je cachais parce que je faisais des croquis et j'avais presque honte de les montrer parce que je suis pas illustratrice ou je suis pas peintre. Et donc, il y a un peu un truc aussi de reconnecter avec ça en fait et de me dire en fait non, c'est aussi, ça fait partie aussi de moi et de ma pratique de dessiner. La peinture, j'en ai un peu peur, donc je l'assume moins, même si on peut retrouver la coulure un peu aussi parfois qui est représentée par mes lirettes qui pendent et qui dégoulinent, enfin finalement c'est un peu le même langage. Et le cadre, depuis à peu près un an et demi, il y avait vraiment la question de mes pièces, comment je les présente sur un mur pour pas que ce soit juste un tapis, parce que c'était un truc qui me chiffonnait très fort qu'on me dise que mes pièces ce soit des tapis. Il y avait, même si j'ai un très très grand respect du tapis, mais en fait je fais pas du tapis, j'avais envie de me dans l'art on présente une œuvre aussi avec un cadre, avec un socle, et comment je les intègre en fait à la pièce finale. Et en plus dans le tissage on tisse sur des cadres, donc en fait il y avait ce double, enfin ce vocabulaire un peu commun, et comment je me réapproprie mon outil de cadre qui devient l'objet final, enfin et qui vient encadrer et en même temps terminer mes pièces. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc d'y aller tout en ayant toujours d'aller un retour. Peu peur et voilà, mais
c'est très assumé dans les pièces de manière instinctive, je pense. Hier on en parlait, mais je suis tombé devant le panneau qui annonce la bienvenue à Delphinland, qui ressemble à un panneau publicitaire de Las Vegas ou qui pourrait aussi être une œuvre d'Ed Rocher ou je sais pas, et j'étais vraiment très très étonné et heureux de découvrir ces volutes, de découvrir ces traits, de découvrir ces aplats. Et ça me disait qu'il y avait 1000 en fait strates de lecture dans ce travail-là. Et je crois que ça va être très très riche pour les visiteurs et les visiteuses de découvrir chacun selon ses références et sa vie une quantité d'espace à aller embrasser pendant l'exposition.
J'espère.
Et je crois qu'il nous, même s'il y a beaucoup de travail encore à effectuer, on devient très impatient de voir ce que l'exposition donne.
Moi aussi, je suis très impatiente.
Donc remettons-nous au travail et merci beaucoup.
Merci à toi.